and I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
Le Festival international Nuit d'Afrique, le rendez-vous des musiques du monde, vous invite à sa 36e édition du 12 au 24 juillet à Montréal. Ne manquez pas l'une des voix les plus étonnantes du Brésil, Fabiana Cosa, les piliers de la tradition Jinawi, Mokhtar Gania et Jinawa Soul. Le blues éclectique de la fabuleuse Dawn Tyler Watson. Vivez des moments de pure beauté avec la rencontre du Sud-Africain Derek Gripper et le griot de la Corazal Sissoko. Programmation et billetterie sur festivalnuitdafrique.com.
On CKUT 90.3. We're in hour two. Keep it locked and loaded. If you are sweaty, it is time to get a drink. If you need to get up or you're just tuning in, it's gonna get live really fast. So if you're with me in the first hour, please stick around for the second hour. I am DJ Sirius Black. You can find me at DJ Sirius Black on Instagram.
Sneeze when you make an involuntary explosion of air through the nose and mouth due to irritation of one's nostrils. But if you've never sneezed before, that doesn't quite capture the unique feeling of the almost...
Bonsoir à tous et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. J'espère que vous allez bien. Ici Esther Bourdage au microphone et je suis accompagnée d'Anthony.
Bonsoir.
Bonsoir Anthony, ça va bien?
Ça va très très bien.
Bien, très bien. Aujourd'hui bien, on va continuer notre couverture sur Fantasia. Et pour ce faire bien, nous avons une invitée avec nous en studio. De Toronto, elle est venue visiter Montréal dans le cadre de Fantasia, Joanne Bellucco. Bonjour Joanne.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Bienvenue, nous sommes super contents de t'accueillir en studio. Et, l'été bat son plein, Fantasia également jusqu'au 3 août et on a beaucoup de sujets partagés. Bien, ouais, Fantasia nous offre beaucoup de surprises et il y avait le prix honorifique de la carrière de John Woo et c'était un événement incroyable avec la projection de Hardwell. La semaine passée, bien, Anthony, tu as pas pu écouter avec nous en studio la trame sonore de ce film-là qui est très jazzy, très... très incroyable. Donc, un film de Hong Kong des années 90. Et ouais, j'étais très étonnée par une trame sonore super nord-américaine, très jazzy. Et dans le cadre de Fantasia, bien, on va en parler avec Joanne. Joanne a vu des films. Elle, également, elle est réalisatrice, productrice. Elle, avant de s'établir à Toronto, bien, elle a pratiqué son art en France et elle a fait réaliser, produit des courts-métrages, des longs-métrages. Elle s'intéresse beaucoup au cinéma de genre et c'est très, valorisant et très chouette et très inspirant de pouvoir parler de cinéma du genre avec des spécialistes ici en studio. Donc, merci d'être avec nous, Joanne. Et dis-nous, donc, ouais, tu es en train de préparer un terrain pour un nouveau documentaire, qui porte sur une signature féminine. Donc, le métier, que ce soit des métiers de réalisatrice, métiers de productrice et tout autour, mais vraiment consacré au film de genre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton approche ici à Montréal? Et puis, ouais, parler un peu des rencontres que tu as faites. Ouais, parle-nous un peu du pont entre ta pratique de réalisatrice, productrice et ouais, ce que tu fais maintenant ici à Montréal.
Oui, alors, merci encore, je vous dis, pour l'invitation. En fait, oui, effectivement, j'ai réalisé plusieurs documentaires, que ce soit des formats courts ou des formats longs, sur le cinéma de genre, le cinéma de terreur et d'horreur en particulier. J'ai été élevée dans ce cinéma-là en France et j'ai toujours été intéressée par et inspirée par des cinéastes qui étaient finalement des cinéastes masculins, des John Carpenter, des Dario Argento, des George Romero, des David Cronenberg. C'est un peu pour ça que j'ai déménagé au Canada. J'étais toujours très inspirée par ces cinéastes-là. Et puis arrive petit à petit en sous-sol toute une vague de cinéastes féminines qui prennent les choses en main et qui ont décidé de renouveler le genre et d'apporter des choses que ces cinéastes hommes n'ont pas apportées. Et donc voilà, je me suis dit, étant donné mon parcours, je me suis toujours sentie seule comme femme intéressée par ce genre-là. J'ai voulu partir à la rencontre de cinéastes qui, elles, avaient un parcours peut-être similaire, me sentir moins seule et voir comment ce cinéma-là pouvait évoluer à l'international. Et je me suis le focus, en fait, c'est sur quelque chose de, j'essaie de faire un film, peut-être le premier, très personnel, où je parle un petit peu de mon itinéraire, c'est-à-dire que je vais aller rencontrer des cinéastes, des réalisatrices françaises, mais également canadiennes, qui ont en fait inspiré mon parcours et qui ont jalonné cette recherche du cinéma de genre. Et qu'est-ce qui déclenche en fait ce projet-là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui? C'est que l'année dernière, il s'est passé quelque chose d'important, c'est au Festival de Cannes, donc 2021, il y a eu quand même quelque chose qui a fait bouger les lignes, c'est que Julia Ducournau a eu la Palme d'Or à Cannes avec le film Titane. Donc, on a l'impression que c'est rien. voilà, mais ça couple deux choses. C'est un film de femme, c'était la deuxième cinéaste qui a eu une Palme d'Or après Jane Campion et La leçon de piano 20 ans auparavant. Et c'est un film de genre. Donc là, le monde du cinéma sera pour moi plus jamais le même parce que voilà, il y a une étape qui a été franchie et l'idée de ce film qui est donc en développement, ce documentaire, c'est de savoir si c'est vraiment une étape dans le cinéma de genre et que les femmes vont pouvoir enfin avoir leur place et que finalement, on ne parle plus de femmes et de cinéma de genre, mais juste de cinéastes et de films, quoi.
Oh, donc il faudrait arrêter de parler de cinéma de genre?
Il ne faut pas arrêter de parler de cinéma de genre, mais il faut arrêter de lier « Ah, vous êtes cinéaste de genre, vous êtes une femme. »
Ok, oui.
C'est un peu ça, l'idée.
Oui.
Intéressant. Donc, comme si le cinéma de genre... Oui, nous savons ça a une place marginale, mais est-ce qu'être femme et faire du cinéma de genre rend la chose encore plus marginale? Est-ce que c'est ça que je comprends? Ouais. Dans la mythologie, là, disons, de mythe, quoi.
C'est ça. Puis, par exemple, moi, il y a deux films qui ont été, pour moi, des marqueurs. Un film en France qui s'appelle Trouble Every Day de Claire Denis, que j'ai eu la chance de voir à l'époque au Festival de Cannes à la séance de minuit, qui n'est pas labellisé au départ comme un film de genre, qui est un film d'auteur, et qui, en fait, est un film qui révolutionne le genre à sa façon. Et également pour moi au Canada, c'est American Psycho, qui est quand même un roman qui était jugé inadaptable et qui a été adapté par une femme. Et je pense que personne, à moins des cinéphiles, ne savent que c'est une femme qui a réalisé ce film, qui reprend tous les codes en fait du livre et toute la misogynie finalement qui est liée au personnage principal d'American Psycho. Et donc on peut pas imaginer que c'est un film de femme, mais je trouve que c'est justement très provocateur du fait que c'est une femme qui a réalisé ce film. Donc pour moi c'est deux marqueurs importants qui sont un petit peu au départ de la genèse de ce projet. C'est ces deux réalisatrices qui sont inspirantes, et je pars un petit peu de ces deux films et de ces deux films marquants dans, dans mon parcours pour justement aller à la recherche de ce cinéma-là et comment ce cinéma a évolué.
Et ça m'amène, est-ce que je peux me permettre une question? On est bien conscient que pour les femmes, dans tous les milieux, c'est beaucoup plus difficile de percer. Je pense que chaque milieu a ses caractéristiques propres ou ses difficultés propres pour les femmes. Est-ce que tu penses qu'il y a des caractéristiques ou des difficultés propres dans le cinéma de genre?
Je pense que le cinéma de genre est vachement codé aussi pour les femmes. C'est-à-dire que c'est très lié souvent dans le cinéma d'horreur aussi quand il y a une place de femme ou des personnages de femmes à la sexualité. Donc ce qui veut dire que, mais ça c'est un petit peu dans n'importe quelle façon d'essayer de trouver des financements et de faire des films, c'est qu'on est on doit être dans une ou l'autre des catégories, soit on est l'intellectuel sexualisé ou on
plate,
joue
là, la sexuelle l'intellectuel plate.
L'intellectuel, bah, moi j'ajouterais pas ce terme là mais où on joue de ce qu'on est, parce que finalement en tant que femme, et moi ça m'a jamais porté préjudice, en plus j'ai fait des films en Espagne, au Canada en anglais, et donc j'ai toujours été the French girl avec un accent terrible en anglais. Mm-hmm. Donc où on joue de nos atouts et d'une manière à obtenir des choses, mais en ayant beaucoup d'humour, où on décide qu'on n'est pas du tout sexualisé et que dans ce cas-là, voilà, c'est une approche beaucoup plus froide. Moi, je pense que c'est comme dans les films de genre, il faut jouer de ses atouts sans franchir certaines barrières, et puis surtout garder le sens de l'humour. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne.
Oui, c'est ça. Dans les films d'horreur, il y a souvent ces formules, ces formules-là. Et puis, j'ai l'impression qu'on est en train de les épuiser, ces formules. Je pense qu'on ouvre des nouveaux chapitres, des nouvelles portes d'intrigue ou à ne pas suivre les patrons, les patterns, les gabarits qui existent déjà dans les grands classiques du cinéma. Mm-hmm. En tout cas, en Amérique, là, je réfléchis. Et puis, dans le cas de Fantasia, je sais que tu as vu toutes sortes de films, des films dans le cadre de la francophonie, par exemple L'employé du mois, qui est réalisé par une femme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que je pense que dans l'intrigue, ça déconstruit un peu toutes sortes de tabous et toutes sortes de clichés.
Oui, j'ai bien aimé ce film, donc belge, en fait, d'une cinéaste belge, L'employé du mois, qui en fait est une employée d'une entreprise de nettoyage, de produits nettoyants, qui en fait se retrouve dans le monde de la misogyne de l'entreprise, et qui s'aperçoit que bah, ça fait 25 ans qu'elle n'a pas été... son salaire a été relevé,
pas de promotion.
Pas de promotion, rien, que tous les collègues sont hyper misogynes, qu'eux, ils ont droit à voilà, des salaires mirobolants. Et donc, à un moment donné, elle a une prise de conscience. Et un accident fait que, j'ai du mal, je veux pas trop dévoiler les choses, mais fait qu'il y a une succession, c'est un peu une revanche sur la vie par la suite. Et elle prend les rênes des choses, et puis il se passe des choses assez désagréables pour les collègues masculins, disons.
Aha. Et il y a également un film allemand dont tu me glissais mot qui t'avait marqué également.
Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai découvert que ce film en fait a une carrière à la Berlinale à Berlin, a eu était bien réceptionné. Donc le film, ça s'appelle We Might As Well Be Dead, d'une cinéaste donc allemande qui s'appelle Natalia Sinelnikova. Et en fait, c'est un film un petit peu d'anticipation, très inspiré par l'œuvre de Ballard. C'est en fait un immeuble au milieu de nulle part, entouré de grilles, et des gens essayent de pouvoir accéder à cet appartement et de faire partie de cette vie sociale. Alors, comme dans toute vie sociale, chacun a son rôle, et puis tout part un peu en sucette, disons. Et, mais j'ai surtout été assez, c'est fantastique parce que c'est un film d'école au départ. Donc, cette réalisatrice sortait de l'école de Babelsberg, et en fait, au niveau de l'équipe technique, que ce soit elle ou l'équipe principale est féminine, et ce sont des étudiantes. Et moi, j'ai rarement vu un film d'une telle maîtrise visuelle également. Je trouve que, justement, j'ai toujours l'impression... Moi, j'aime pas trop quand le cinéma est souvent très référencé. Ça me va dans le cinéma de genre, parce qu'il y a un côté ludique à ça. Mais là, vraiment, c'est une jeune cinéaste qui a un univers qui lui est propre. Bah, déjà, de reconstituer... C'est un huis clos dans un immeuble, comme je disais, dans l'esprit du high-rise de James Ballard. Mais elle a vraiment reconstitué le décor avec des bouts de ficelle. C'est vraiment un thriller angoissant, et les acteurs sont fantastiques, une mise en scène incroyable et un suspense terrible. Et je trouve une facture justement un peu à la David Cronenberg, disons, avec des cadrages très très pensés. C'est pas une caméra volante, c'est vraiment très très découpé. Et j'ai vraiment apprécié ce film-là, et que je recommande.
Donc c'est une première œuvre.
C'est une première œuvre qui est, comme je le dis, en plus une œuvre de sortie d'études. Donc c'est assez remarquable. Je pense que cette cinéaste va être vraiment à suivre.
Wow. Est-ce qu'on peut... Peux-tu nous redire le titre?
Oui, le titre, c'est « We Might As Well Be Dead ».
OK.
Ça, c'est le titre anglais. Je ne me permettrai pas de vous donner le titre allemand.
Donc, on pourrait faire une pause musicale.
Oui.
Donc...
Qu'est-ce qu'on écoute?
On écoute Il Demonio, la trame sonore de ce film. C'est un film italien de Piero Piccioni, un film de 1963, qui va jouer à la Cinémathèque dans le cadre de Fantasia. Il joue lundi prochain. Donc, nous écoutons ça sur Café. Il est 18h17. À plus tard. Rebonsoir sur Café, sur les ondes de CKUT. Donc, nous sommes en compagnie bien d'Anthony, d'Esther et de Joanne Bellucco, notre invitée spéciale de la semaine pour parler de cinéma de genre, parler de Fantasia et de sa recherche actuelle. Et puisque Joanne travaille sur un. Sur le terrain afin de produire son nouveau documentaire. Donc, vous venez d'entendre une superbe pièce, c'est la trame sonore du film italien Il Demonio. C'est assez intense parce qu'on regardait les aiguilles du système de son ici, et puis ça pique, il y a beaucoup de cordes. Waouh! Une belle orchestration. Il Demonio va jouer dans le cadre de Fantasia à la Cinémathèque le 25 juillet, donc c'est lundi. Un film de Piero Piccioni. Désolée pour la prononciation, je fais mon possible. C'est un film dans les années 60.
Si je peux me permettre, Piero Piccioni, c'est lui qui a fait la soundtrack. Tandis que le réalisateur, ça me semble Brunello Rondi.
Je suis peut-être têteux. C'est ça. Soundtrack by Piero Piccioni, un film de 1963. Donc, c'était une belle époque du cinéma italien de genre et ça continue dans d'autres traditions. Donc, nous avons commencé à aborder la question du film de genre. Et il y a toute une dimension du fait que ce n'est pas les budgets hollywoodiens souvent. Et c'est souvent des budgets indépendants ou des budgets de genre qui veulent vraiment investir dans des produits qui ne sont pas hollywoodiens, qui sont plus hors des sentiers battus et qui donnent finalement un peu plus d'indépendance, malgré que, tout dépendant du producteur. Et Joanne peut nous parler de la question de l'indépendance et de la dimension sociopolitique que procure cette indépendance.
Pour en tenir, quand même, revenir sur le fait que le cinéma de genre peut être un cinéma hollywoodien également, oui. Le film d'action, le film d'horreur et tout ça. Et là, on parle plus de films plus indépendants. Moi, il y a deux versants qui me fascinent et qui me plaisent dans le cinéma de genre. C'est le fait que, je parle de films donc plutôt indépendants, c'est le fait que ça permet aux cinéastes d'expérimenter. Ça, on ne le dit jamais assez, mais quelqu'un comme Sam Raimi avec Evil Dead ou des films comme ça, ou George Romero avec Night of the Living Dead, faut se dire que c'est quand même du cinéma d'expérimentation. C'est-à-dire, ils expérimentent des techniques visuelles avec 3 francs 6 sous, 3 dollars, excusez-moi, 3 dollars 6 piastres. Je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est super intéressant. C'est que les cinéastes hollywoodiens d'aujourd'hui, c'était comme Sam Raimi qui fait les Spider-Man et tout ça. C'est quand même des gars qui ont expérimenté dans le cinéma de genre au départ. Et on va prendre l'exemple de George Romero. Du fait qu'ils étaient indépendants au niveau de la production, il y avait souvent des messages très politiques dans le cinéma de genre. Et c'est très reconnu sur les films de George Romero qui parlent de la société de consommation. C'est quand même le premier film. Après, In the Heat of the Night, le héros de Night of the Living Dead, c'est un acteur noir. Donc, on peut pas prendre. Moi, j'ai toujours du mal. C'est quand on me dit, ah oui, Joanne, elle aime le cinéma de genre, elle aime le cinéma d'horreur. Oui, mais c'est un cinéma qui est revendicatif. Et il y a toujours, il y a souvent un sous-texte très politique, parce que justement, c'est des cinéastes qui se battent et pour expérimenter des choses et qui ont des choses à dire parce que ils sont proches du peuple et qu'ils vivent des choses. Donc, je trouve qu'il faut vraiment avoir cette approche-là du cinéma de genre qui a vraiment ces deux versants qui moi me passionnent.
Et on sait bien que les années 70, par exemple, 70-80, c'était des années charnières aux États-Unis, peut-être aussi en Europe, par rapport à cette indépendance-là. Et puis, il y avait beaucoup de films très sociopolitiques, pour en nommer des tonnes.
Ça m'impressionne à quel point qu'il y a un lien fort entre pas avoir beaucoup d'argent et avoir une liberté, ou être dans la marginalité et être libre. Et que dès que tu es un peu plus institutionnel ou que tu as un petit peu plus de budget ou de subvention, peut-être pas naturellement ou peut-être même pas consciemment, mais ça ferme un peu la liberté.
Oui, puis moi, enfin, j'ai discuté justement, j'ai profité de Fantasia pour discuter avec des cinéastes, même canadiens, voire québécois, qui sont en train d'essayer de financer leurs films. Mmh. Et le problème, c'est que même au niveau de la production québécoise, par exemple, c'est qu'il faut quand même rentrer dans des cases, il faut se justifier de tout, tout le temps. Et ça, je trouve que c'est contre-productif, parce que le cinéma et l'art, c'est quelque chose d'instinctif. Ouais. Alors, de demander aux gens de se justifier de tout et tout le temps dans des dossiers, pourquoi tel personnage, sa backstory, enfin plein de choses comme ça, ça tue la créativité. Parce que finalement, il faut que les personnages rentrent dans des cases. Et puis, il faut se dire, je vais sortir du placard,
oui. Que
c'est le moment de... Non, c'est que maintenant, on est quand même dans un monde où il faut de politiquement correct.
Ouais, ouais, ouais.
Et ça, ça peut être vraiment préjudiciable à l'art. Et ça, je pense qu'il faut se réveiller et qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Parce que...
Donc, même le cinéma de genre, qui a une liberté historique... commence à être affecté par les demandes, des subventions, d'être politiquement correct, d'avoir tel...
Exactement. Et ce qui... Eh ben, par exemple, moi, je prends toujours quand j'ai ce genre de discussion, c'est se dire un producteur-réalisateur comme Jordan Peele, qui est connu aux États-Unis, qui est un producteur noir, qui a fait le fameux Get Out, et là, aujourd'hui, il y a Nope qui sort, qui s'appelle... je ne sais pas comment ça s'appelle en québécois. Mais ce cinéaste-là, tous ses acteurs sont noirs, il fait des séries avec des acteurs noirs, et on se pose pas la question que ce sont des acteurs noirs. C'est juste, il faudrait arriver à un moment où on prend le meilleur acteur pour le personnage et on se pose plus la question. Maintenant, heureusement qu'il y a des producteurs comme ça, des cinéastes comme ça qui amènent cette nouvelle génération. Et nous, on est un petit peu dans l'entre-deux où l'État et les organismes essayent de gérer cet aspect-là, mais ils le font pour l'instant de manière assez maladroite. Et je dis, faut alerter au fait qu'on ne peut pas demander à des artistes de se justifier pour tout et tout le temps. Donc, faut faire attention.
Oui, je pense que c'est vraiment des conversations qui reviennent depuis plusieurs années. Si un film est financé au fédéral, il y a des comptes à rendre, des lignes de conduite. C'est la même chose avec le cinéma hollywoodien. Pratiquement, il faut croire quoi. Donc, c'est un peu dommage, ces lignes de conduite un peu trop rigides. Mmh.
Surtout dans le genre, parce que qu'est-ce que c'est le film de genre? C'est du film qui est en réaction à la société. Mmh. Donc, c'est un cinéma provocateur. Donc, si on perd cet aspect provocateur, qu'est-ce qui reste? Pour moi, ça lisse un petit peu la production. Et c'est des discussions que j'ai eues hier, parce que j'ai commencé à faire quelques pré-entrevues. C'est que moi, ce que j'ai aimé, j'ai été élevée au cinéma de genre très jeune, parce que mon frère avait 6 ans plus que moi, donc je regardais des films un peu de genre à 6 ans, lui il en avait 12. Mais qu'est-ce qu'on aime dans le cinéma de genre? Il y a aussi je trouve que les codes du genre, c'est quand même des choses qu'on apprécie. Il y a les fameuses scream queens, il y a les jeunes femmes. Quand on voit quelqu'un comme Wes Craven a quand même renouvelé le genre quand il a relancé la franchise Scream. Qu'est-ce que c'est Scream? C'est que la première séquence, c'est une jeune femme, une étudiante qui se fait massacrer.
Pulpeuse, sexy, qui se fait
poursuivre par un tueur et qui se fait massacrer à la fin. Et à la fin de cette séquence d'ouverture qui est toujours spectaculaire, tout le monde applaudit. Donc, ce que je veux dire, c'est un classique où Halloween, c'est ça. Même les films de Dario Argento, c'est rarement des hommes sexy qui se font massacrer ou c'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Donc, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à quel point est-ce qu'on peut, renouveler le genre en ne le vidant pas de sa substance. Je pense qu'il faut arriver à trouver un équilibre où on garde les codes, on en rit et on les utilise, même en tant que femme. Et là, j'en discutais avec des réalisatrices canadiennes hier. On assume, comme je disais un peu au début, notre sexualité, notre physique. On a envie de rester des cinéastes, d'être la femme qu'on est. Mais dans le sous-texte, ce que me disaient ces réalisatrices-là, on peut passer ces messages plus politiques, plus engagés. Moi, j'ai tendance à dire que c'est ce genre de film que je souhaite voir, c'est-à-dire garder quand même les codes du genre qui en font un spectacle rafraîchissant et décalé, parce que ça reste un genre décalé, et que tout soit dans le sous-texte. Moi, quand on me présente, et j'ai vu, je ne citerai pas de nom de titre de film pour le coup à Fantasia, mais j'ai vu justement le pire chose qui pourrait être fait, c'est de faire un film où justement tout le casting est fait
pour... Avec des tokens, c'est
avec
ce
des tokens, avec des token dans le sujet. La personne spirituelle, c'est telle personne spirituelle. Les personnages, c'est des personnages qui ont été traumatisés par les hommes. Ouais, donc ça devient assez terrible. Donc il faut vraiment pas aller trop loin. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
C'est pas un quiz. Mais j'ai vu le film en question, mais c'est pas un quiz.
on se posera la question tantôt quand on va mettre une chanson.
Donc on mentionnait Dario Argento qui est un classique du cinéma d'horreur. Il présente son dernier film à Fantasia. Malheureusement, lui, il ne vient pas à Fantasia, mais son dernier film... C'est quoi le titre?
Dark Glasses en anglais.
Voilà, merci beaucoup. Donc, il renoue avec la tradition, sa tradition de giallo, il a été très connu avec ce type de cinéma-là. On pourra en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un giallo? C'est tout un sous-genre dans le cinéma de genre. Donc, écoutons la trame sonore du film Phenomena, qui est un superbe
sublime,
film.
Sublime.
Voilà, c'est un superbe film. À tout à l'heure.
Thank you.
Bonsoir à tous et re-bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Il est 6h38. Il fait beau.
Il fait chaud.
Il fait très chaud. Faites attention. Que de souvenirs. Ce studio était vraiment chaud. Et mentionnons qu'aujourd'hui, eh bien, il y avait un prix spécial remis à l'auteur, écrivaine, programmatrice de festival, commissaire. Elle était propriétaire du micro-cinéma Blue Sunshine et j'ai nommé, bien, Kerla Janis. Aujourd'hui, elle recevait un prix spécial pour son implication et puis elle donnait un talk et elle lance une version bonifiée, améliorée, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est demain, oui, déjà demain, elle lance cette nouvelle version du livre qu'elle a écrit il y a 10 ans. Et je vais vous mentionner le titre ici, House of Psychotic Woman Book Launch Event. Donc, désolée, c'est dimanche, le 24 juin. Et c'est accompagné d'un film assis à la salle Jia de Sèvres de l'Université Concordia. Donc, à 16h, et c'est un rendez-vous qui, elle me disait qu'elle avait bonifié, qu'elle insérait plus d'images, plus de films, puisqu'elle fait référence à beaucoup de films. Donc, c'est un film qui se veut un livre qui se veut autobiographique. C'est une façon bien originale de parler de femmes dans le cinéma de genre, mais de femmes névrosées dans ce type de cinéma, femmes dépressives. Vous en avez pour tous les goûts. Autant vous avez Possession de Zulawski, vous avez des films de tous les pays, films français, films de tous les pays. Et étant donné que c'est autobiographique, bien, elle fait souvent un pont avec sa propre vie à elle. Donc, elle n'a pas peur de dire que sa vie, elle se rend vulnérable. Elle n'a pas peur des mots, elle n'a pas peur de se mettre à froid, de dire oui, elle est passée par des phases difficiles dans sa vie, des phases dépressives et tout. Et puis, parfois, elle se reconnaît dans ces films-là. Donc, c'est un film... un livre vraiment très intéressant. Et il y a 10 ans, je l'avais interviewé justement en anglais pour le Film Club. Le livre n'a fait que s'améliorer depuis. Donc, si jamais vous voulez voir une archive de cette interview-là de 10 minutes en anglais, allez voir mon SoundCloud, Esther Bourdage. C'est des archives. En tout cas, qui cherche trouve. Anyway, je ne vais pas en dire plus. Et puis, donc, bravo à Kerla Janis qui célèbre ce livre et qui est sorti avec le maison d'édition Fab Press en 2012. Donc, pour en revenir avec notre invitée spéciale aujourd'hui, la réalisatrice productrice de Toronto, une franco-ontarienne, une française, franco-italienne aussi.
Identité multiple.
Voilà,
c'est ça.
Joanne Bellocco.
Sans étiquette.
È molto bene. Donc, nous voulions parler de...
Je dirais dit de la question de la liberté artistique par rapport aux changements sociaux. Puis peut-être plus précisément la question des tokens. Pour les gens qui ne savent pas trop, token, c'est souvent une manière... Token, c'est une personne qu'on va prendre pour remplir les besoins de la diversité, souvent. Pour avoir une subvention, ils nous disent qu'on doit avoir des gens de la diversité, bien, on va prendre, une actrice noire, puis là, on va la cocher. Puis souvent, cette actrice-là ne va pas avoir un personnage important, mais au moins, on va pouvoir cocher pour avoir la subvention. Je suis allé voir sur l'Office de la langue française et c'est pas encore traduit, donc on pourrait utiliser des jetons. Fait que la question des jetons. Donc là, on sait que tu as eu des entrevues ou des prix d'entrevue avec des réalisatrices. Les réalisatrices avaient de l'air très conscientes de cette question-là. Est-ce qu'il y avait des pistes de solutions ou des manières d'améliorer ou de je sais pas trop comment le dire, mais
des options afin d'éviter de tomber dans ce panneau qu'on essaie de nous imposer.
Je pense que de toute façon, l'idée, c'est de trouver le meilleur acteur ou la meilleure actrice. Là, on parle de distribution de rôle pour le personnage. Donc, après, ça dépend du contexte du film. Je veux dire, il faut que ça soit... Mais comme je dis, c'est que n'importe quel acteur devrait pouvoir jouer n'importe quel personnage. Et n'importe quel personnage devrait jouer... Et là, je parle au niveau multiculturel. Pouvait être joué par n'importe quel acteur. Donc pour moi, l'important, c'est de caster le bon acteur pour le bon personnage. Mais d'un autre côté, comme je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la fraîcheur d'amener une nouvelle génération d'acteurs. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on a plus accès à une diversité au niveau de la proposition des comédiens ou des acteurs pour les films. Et je pense que c'est plutôt une curiosité qu'il faudrait avoir au niveau des cinéastes, c'est de se dire je suis curieuse, à la sortie de telle école de théâtre, on me propose tous ces comédiens-là, je les rencontre et je ne me pose pas la question de l'aspect multiculturel. Et je pense que c'est surtout qu'on devrait avoir de plus en plus accès à ce choix-là.
J'ai voulu me faire l'avocat du diable, mais mettons dans l'école de théâtre, sûrement que c'est un problème systémique, là, la question de qui va dans les écoles, qui rentre. Et c'est sûr que ça l'a aidé qu'il y ait de la discrimination positive pour permettre des nouvelles actrices originales qui viennent de plein de milieux. Donc, à la fois, c'est nécessaire parce que ça permet une nouvelle vague, mais à la fois, ça met en danger la question de la liberté artistique. Là, j'ai l'impression qu'on met le doigt sur le plus gros problème de l'époque. Là.
Mais d'un autre côté, c'est ça. C'est qu'il faut aller loin pour... Enfin, je veux dire, on part tellement de rien que moi, je comprends qu'il faille poser des gestes forts. Mm-hmm. Je pense que c'est normal, il faut poser ces gestes forts. Puis après, les choses devraient se réguler. Comme je dis, ça serait une question de curiosité. Mais je pense qu'effectivement, il y a une nécessité de poser ces gestes et de donner accès à ces artistes-là, quoi. Et puis, pour les artistes qui ne sont pas forcément issus de milieux multiculturels, de donner accès à justement cette palette de comédiens. Donc, il faut aller loin, c'est sûr. Mais je pense que les choses risquent de se réguler par la suite. Donc, il faut faire la révolution, puis après, on se débrouille.
Mais ça me faisait un peu penser à quelque chose. Les auditions pour rentrer à l'école de musique dans certaines universités, par exemple. Il y a certaines universités qui ont décidé de faire passer les examens à l'aveugle, puisque historiquement parlant, il y a beaucoup plus de mecs qui sortent des grandes écoles universitaires en programme de musique. Et même, c'est ça, même à Montréal, ils ont commencé ça, je ne sais pas en quelle année, mais
et l'apparence n'a pas de lien avec les talents de musicien ou de musicienne.
Non, c'est ça. Et je suis en train d'écrire justement un texte là-dessus. Là. C'est une commande, mais oui, il y a beaucoup plus de musiciennes qui ont rentré dans les programmes universitaires en musique depuis, moi, je dirais, les années 90, et ça se poursuit. Ouais. Et donc, en réalisation aussi, il y a tellement plus de femmes impliquées en écriture, en direction photo, en technique de son.
C'est ça, au niveau c'est surtout les postes techniques. Ça fait vraiment plaisir de voir que il y a des chefs opératrices, je sais pas comment ça se dit, mais oui, justement, il y a des femmes, des chefs chefs opératrices qui sont vraiment incroyables. Je veux dire, maintenant ou même au niveau des hommes, c'est-à-dire, on dit toujours une script, c'est souvent une script. Il y a des métiers qui sont complètement féminisés, et des métiers qui sont complètement masculinisés. Maintenant, on voit que les lignes ont changé, et je pense qu'on est quand même arrivé là au niveau de la technique en cinéma. J'ai l'impression que voilà, il n'y a plus ces limitations-là. Donc ça, je pense que c'est déjà une belle étape de franchir.
Est-ce qu'on dit le mec qui fait le script, là, est-ce qu'on dirait le script man?
Le scripteur? une scriptrice, je sais pas.
Bah, c'est-à-dire qu'on non non, on dit la script, on va dire le script. Okay. Je sais pas.
Oui, c'est ça.
Ça pourrait être ça la solution.
Je fais des recherches avancées, donne-moi des secondes.
Et je voulais dire directrice de la photo, ce qui est quand même beaucoup plus facile à dire que chef. J'ai déjà eu des discussions, on dit beaucoup chef opérateur en France et on dit directeur de la photo, ce qui est plus juste, donc directrice de la photo.
Selon l'Office de la langue française du Québec, on dit script en français.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Le
ouais,
script,
ouais.
L'inscrit. Ouais, ouais.
Mais c'est voilà, c'est le ou la script. Mais souvent, enfin, pendant voilà, la tradition française en tout cas voulait que ce soit principalement des femmes. Mm. Mais bon.
Ouais, c'est un peu comme les secrétaires.
C'est ça.
C'est des métiers de précision.
Oui.
Donc, c'était la secrétaire. Souvent, c'était une femme, la secrétaire dans les bureaux.
C'est ça.
La D'où, script girl.
Je vous renvoie au film L'employé du mois de Véronique Jadin à ce sujet.
Est-ce qu'on peut aller le voir encore? L'employé du mois, j'imagine, ou il est trop tard, ou je vais
ça
le trouver
joue
sur Internet.
Ça joue une ou deux fois, ouais, mais ouais. J'imagine que, ben, comme c'est un film francophone, il y aura peut-être l'occasion de le revoir dans un autre festival à Montréal.
Ou en salle.
Ou en salle, en
sortie salle. Ouais. Elle a l'air d'avoir beaucoup de potentiel. Donc, on pourrait passer en petite pause publicitaire.
Oui.
Et revenir en chanson, en musique.
C'est parti.
On va trouver une musique en cours de route.
Le Festival international Nuit d'Afrique, le rendez-vous des musiques du monde, vous invite à sa 36e édition du 12 au 24 juillet à Montréal. Ne manquez pas l'une des voix les plus étonnantes du Brésil, Fabiana Cosa, les piliers de la tradition Jinawi, Mokhtar Gania et Jinawa Soul. Le blues éclectique de la fabuleuse Dawn Tyler Watson. Vivez des moments de pure beauté avec la rencontre du Sud-Africain Derek Gripper et le griot de la Corazal Sissoko. Programmation et billetterie sur festivalnuitdafrique.com.
Et on va vous mettre une belle chanson du Festival international de Nuit d'Afrique et du 12 au 24 juillet. Donc ce soir, juste à 19h, vous pouvez entendre Dobé Gnaoré, qui vient de la Côte d'Ivoire. Elle a sorti un album qui s'appelle Couleur en 2021. Donc je vais vous présenter la chanson Lève-toi.
Ça veut dire tout simplement, il faut que tu te lèves, te mettes à part. même si c'est Katanga, comment relève-toi.
On n'a rien sans effort, relève-toi.
Celui qui baisse les bras n'aura jamais de joie.
Bonsoir à tous et re-bienvenue sur Café pour un dernier segment. Il est 6h53. Vous écoutez CKUT. Vous venez d'entendre une super pièce d'une artiste de Côte d'Ivoire qui joue ce soir. Mais ouais, qui joue dans 7 minutes.
Naouré. Oui, allez-y, vite. Non. À la scène Loto-Québec pour le Festival international Nuit d'Afrique.
Ouais, voilà. Donc, on leur souhaite un super festival, et puis la température est au rendez-vous et tout. Ce festival grossit de plus en plus, et c'est super chouette. Pour clore ce segment, bien, n'oubliez pas que c'est Fantasia en ce moment, et le film de Alex de la Iniesta, désolé mon accent espagnol n'est pas terrible, bien, un de ses films, film rétro, incroyable film qui a été restauré et qui joue en 2K ou 4K ce soir, wow, à minuit. Bien, Action Mutante, bien, c'est la fête, quoi. C'est dans la petite salle Gia de Sèvres. Et c'est un réalisateur espagnol très connu pour un de ses films très délirants, c'est Perdita Durango, qui avait également joué à Montréal il y a quelques années en restauration. Et c'était assez le délire. Et c'est Severin Film qui s'est occupé de la restauration. Et Joan Belloco qui est avec nous. Mais ce film, 1993, par le film. Ouais, Joan qui est avec nous ce soir, bien, nous dit qu'elle a interviewé le réal. Et puis, je pense que c'est bien marré, quoi.
Ouais, Alex de la Iglesia, qui est je le dis avec moi aussi avec un drôle d'accent. Alex de la Iglesia.
Oh, c'est mieux que moi.
Alex de la Iglesia, qui est un cinéaste espagnol, qui a vraiment renouvelé lui aussi le genre en Espagne. J'ai eu la chance de faire un film sur le cinéma de genre, justement, en Espagne, avec que des hommes, en entrevue, dont Alex de la Iglesia, qui m'a consacré une bonne heure. Et c'est vraiment un cinéaste phare, hein, de cette vague du cinéma de genre en Espagne, après la libération de Franco, la Movida et tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important en Espagne. Et je recommande, si vous avez l'occasion, de voir un film qui s'appelle « Balada Triste », des Trompeta, qui est un film qu'il a réalisé sur l'ère après le dictateur Franco, et c'est vraiment un film magnifique et très intéressant sur la guerre civile en Espagne. Donc il y a toujours un sous-texte politique au film de genre.
On l'a bien compris.
Également, pour revenir à ta filmographie, justement, on en parlait tout à l'heure, il y a un de tes films qui circule en ce moment dans les festivals et tout. C'est un film documentaire que tu as réalisé en 2020, si je ne me trompe pas, et qui met en vedette bien, des artistes franco-ontariens qui se sont vus leur vie bousculée face au COVID, quoi. Tu peux nous en parler un peu?
Oui, j'ai la chance de travailler pour le groupe Média TFO et la chaîne TFO, qui est la chaîne franco-ontarienne à Toronto, et pour la franchise qui s'appelle ONFR+. Et c'était le premier documentaire donc produit par ONFR+. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment, moi, je couvre la culture pour cette franchise-là, et au moment du premier confinement, je me suis rendu compte que ben, je risquais de plus pouvoir travailler, puisque les artistes étaient stuck à la maison. C'est une formule franco-ontarienne, hein, les franco-ontariens parlent franco-anglais, donc c'est le terme. Les artistes étaient coincés à la maison, donc l'idée, c'était un peu de les suivre pendant cette pandémie, moi, de pouvoir survivre à la pandémie et de pouvoir exercer mon métier et de pouvoir les suivre en parallèle sur leur cheminement pendant pratiquement 2 ans. Donc, j'étais à la maison, j'ai contacté un certain nombre d'artistes issus de différentes régions de l'Ontario, que ce soit Toronto, Ottawa ou Sudbury, mais également un Acadien à Moncton et deux artistes magnifiques montréalais qui s'appellent Handsome Ellie. C'est un groupe incroyable montréalais originaire d'Ottawa. Et donc tous les mois, ils m'envoyaient des rushs, je leur posais des questions et ils m'envoyaient des vidéos qu'ils se filmaient eux-mêmes. Et donc l'idée, c'était un petit peu d'avoir un peu leur input et un peu comment ils ont vécu cette pandémie. Donc ce film-là est un long métrage documentaire d'une heure et demie qui s'appelle Stuck. Et on a eu la chance d'être nominés aux Gémeaux cette année dans la catégorie de meilleur documentaire. Donc,
félicitations.
Merci. Ouais, on verra ce qui va se passer parce qu'on sait que les Gémeaux privilégient pas mal le cinéma québécois et je suis très contente de représenter la francophonie hors Québec et donc en Ontario.
Une chance que tu es là. Une chance que t'es là.
merci, merci Joanne Bellucco de ta présence. C'est tout le temps que nous avons et nous vous quittons pour cette semaine avec une autre pièce du Festival Nuit d'Afrique.
Oui, donc à la scène TD ce soir à 20h45, vous pouvez écouter Chick Ibrahim, un artiste du Sénégal. Il a sorti en 2021 Peace in Africa et je vous propose la chanson Aïtaria feat. Chick Low. Bonne soirée, bonne écoute tout le monde.
Bonne écoute.
Merci
et
encore.
Au revoir. Merci
au revoir.
Beaucoup.